Les statues parlent aussi, un podcast qui explore la micro-histoire des statues de Genève. Car si la parole est d'argent, en grattant un peu, le silence révèle des secrets figés dans le bronze.
Dévoile ce qu'elle veut cacher.
Beaucoup de secrets. Épisode 1, Francky ou le retour des ténèbres sur Genève. Post tenebras lux. La lumière après les ténèbres. Voilà la devise de la cité de Calvin. Une ville où être sans le sou, c'est mal vu, mais être trop brillant, c'est risqué aussi. À deux pas du mur des réformateurs, symbole immuable de la foi et de l'histoire, s'étend la plus vaste esplanade de Suisse. 640 mètres de long, 200 de large. La Gen Z l'appelle la planète rouge, sans doute à cause de cette étrange poussière ocre qui recouvre son sol, autrefois marécageux, lui donnant des allures de paysage martien. Sur la bordure de ce losange urbain, juste à côté du skatepark, une statue de bronze paraît avancer.
La créature, on dirait, elle avance.
Ses pieds touchent le sol. Ici, point de socle. Elle domine légèrement les passants du haut de ses 2,30 m. Son prénom, Francky, aussi connu sous le nom de The Creature of Dr. Frankenstein.
When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men, to shock women into uncontrolled hysteria.
Elizabeth!
Francky porte un jeans déchiré au genou, un sweatshirt à capuche qui dévoile son torse balafré, sa gueule fracassée, son regard désemparé, son dos voûté, ses bras longs et déformés, ses pieds décharnés, rappellent tout ce que l'on fuit. Francky, c'est l'incarnation de l'autre, celui qu'on préfère ignorer, celui qui fait peur lorsqu'on le croise, ici, sur cette même plaine.
Francky, on peut dire que c'est que du détail. Comme une marionnette, un peu avec des traits exagérés. On a des copains qui lui trouvent qu'il a un super cul.
Constantin Skouridis, artiste, collectif CLAT.
Pas très orthodoxe en tant que sculpture. C'est l'anti-statue, ouais. Je le vois pas en train de s'enfuir. Mais je pense qu'il est plus en train de marcher, d'un pas décidé.
Un lien se forme fragile entre l'histoire de Frankenstein, écrit un été sans soleil du 19e, et la disparition d'une autre Genève, elle aussi avalée par l'ombre, au début du 21e. L'été frigorifique de 1816, une saison où l'Europe entière est plongée dans une étrange obscurité. On pense la fin du monde proche. Plus tard, on comprendra que l'éruption du volcan indonésien Tambora avait produit une déflagration titanesque. Des millions de tonnes de cendres et de soufre sont projetées dans l'atmosphère. Ce nuage invisible enveloppe l'hémisphère nord, voilant la lumière du soleil. Les récoltes ne mûrissent plus, on ne parvient plus à nourrir le bétail. Le Rhône et l'Arve débordent avec une violence inouïe, charriant non seulement des débris de maisons, mais aussi des bœufs noyés sous les flots. On circule en bateau sur la place du Mollard. Au milieu de ce chaos, un homme pêche une truite de 7 kilos. Oh my God! L'industrie du textile succombe à l'arrivée massive de tissus anglais bon marché. Le chômage explose, la famine fait rage. Le typhus implacable se propage, emportant son lot de victimes. Genève voit affluer une vague sans précédent de visiteurs british, pleins aux as en quête de paysages pittoresques. Ils font le grand tour. Passage par la mer de glace, Chamonix, avant de descendre vers les merveilles de l'Italie.
Thank you.
Parmi eux, Lord Byron. Le poète maudit prend ses quartiers à la Villa Diodati sur les hauteurs de Coligny. C'est dans cet écrin lacustre qu'il invite pour distraire son incurable mélancolie des esprits aussi torturés que le sien. Percy Bysshe Shelley, sa future épouse Mary Shelley, Claire Clermont, sa demi-sœur, et enfin John Polidori, médecin et écrivain britannique dont l'œuvre « The Vampire » marquera la naissance du roman de vampire moderne. Alors que la pluie tambourine sans relâche contre les fenêtres, Mary, 19 ans, s'absorbe dans le travail scientifique d'Alessandro Volta, découvrant la maîtrise du courant électrique. Mary ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle n'a encore rien réussi à écrire pour répondre au défi que Byron leur a lancé quelques jours plus tôt. Qui parviendra à écrire l'histoire de spectre la plus terrifiante ? Voyant de la lumière dans le boudoir de Byron, elle le rejoint. Il lui propose un remède bien singulier, de l'ergot de seigle. Une substance aux effets puissants, censée libérer l'imagination. De retour dans son lit, Mary Shelley a une vision. Celle d'une créature façonnée de chair morte qui, réanimée par la galvanisation, prend vie sous ses yeux. Elle se met à écrire frénétiquement. Frankenstein, ou le Prométhée moderne, est né. Mary Shelley écrit sous influence, celle de l'hallucinogène, mais aussi celle de sa mère, Mary Wollstonecraft, qui voulait lier Rousseau au féminisme dans une œuvre inachevée.
Chez Rousseau, l'idée est claire. On vient au monde sans prédisposition, ni bon ni mauvais. C'est la société qui façonne notre personnalité. Dans le cas de la créature de Mary Shelley, au début, elle est innocente et même en quête d'acceptation. Mais elle subit un rejet systématique jusqu'à son propre créateur.
Anita Claire Krimper, spécialiste de littérature anglo-saxonne du 19e.
Cette exclusion totale provoque en elle un glissement vers la haine et finalement la violence. La créature devient meurtrière, non par nature, mais parce que le monde lui renvoie.
Et c'est là, sur la plaine de Plainpalais, que la créature de Frankenstein commet son premier meurtre. Elle tue le petit frère de son père.
Je m'avançais dans cette plaine, indécis sur la direction que je devais suivre, lorsque je vis tout à coup, à la lumière d'un éclair, la créature hideuse à qui j'avais donné la vie. Elle traversait rapidement les champs, et lorsque je disparus à nouveau dans l'ombre, je ne doutais pas un instant qu'il fût l'assassin de mon frère.
Frankenstein n'est pas le seul maudit de l'histoire de la littérature. Faust, Mr. Hyde, le docteur Moreau, le docteur Lerne, Mabuse et bien d'autres se débattent entre vertu et ténèbres lorsque la science dérape. Mais c'est Boris Karloff qui transforme Frankenstein en icône dans le film de James Whale de 1931. Main géante, visage signé Jack Pierce, copyright d'Universal.
This is the story you've heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stuns your emotions. Frankenstein!
Don't touch that!
Frankenstein hante la musique. New York Dolls, The Stooges, Alice Cooper, Dead Kennedys, Groovy Girlies, Meat Loaf, Lenny Kravitz, tous inspirés par ce rejeté devenu mythe. Post-Tenebras Rock. Genève s'ennuie, Genève s'ennuie. How boring. Années 80, loyer qui flambe, les jeunes et les artistes se battent. Leur arme, l'occupation des bâtiments vides. 1989, l'usine s'impose. Ancienne friche industrielle, elle devient un symbole de l'autogestion.
État d'urgence n'est pas lié d'un désir de se fendre la gueule. État d'urgence n'est pas lié d'une volonté de création artistique, d'organisation de spectacles ou d'animation de la ville. État d'urgence n'est pas lié de l'expression d'idées politiques, mais de tout ça à la fois.
Fin des années 90, le collectif CLAT apparaît. Ils sont jeunes, ils sont déterminés, ils sont désinvoltes et ils n'ont peur de rien. Ils réinventent des espaces pour les artistes en marge. Des projets marquent l'époque. Clouter le bar du Débido, investir Artemis, animer le Broom Club Social. Zappelli, procureur PLR, ferme 122 squats. Rino voit son emblématique corne rouge arrachée en 2007. Artemis fermée en 2012. Au début du 21e, la fête alternative s'essouffle. Fin de cycle. Game over. Les ténèbres menacent à nouveau. CLAT riposte avec Frankie. Cadavre exquis de glaise, puis fondu dans le bronze. Une statue pour les rejeter. Un pied de nez au héros officiel.
On veut que ça pèse le poids de la statuaire publique. On veut que Général Dufour il se sente mis en danger, si tu veux, symboliquement.
Frankie doit trôner sur la plaine de Plainpalais, là où dans le roman de Mary Shelley, tout a commencé. L'érection de Frankie sur la plaine va déclencher une gainferaille mémorable. Elle oppose alors deux figures politiques. La presse s'empare de cette querelle. La culture contre l'urbanisme. Canaan contre Pagani.
Sur le square, là-bas, mais c'est quand même près de la plaine. Ils disent, non, il doit être sur la plaine.
Jérôme Massard, artiste, collectif CLAT.
Comme il devait être, en bronze.
Finalement, après des débats intenses, Frankie est érigé, symbole de résistance culturelle.
Et nous, le but, c'était de l'intégrer, enfin, un peu dans cette logique benjaminienne de dire on peut corriger l'histoire par des gestes magiques ou par des œuvres d'art ou par des créations. Ben nous, notre petite correction par rapport à tout ça, c'était de le mettre au niveau en fait, des humains qui l'ont toujours rejeté et dire ben voilà, il est là quoi.
Frankie incarne l'âme de tous les exclus, ceux qui arpentent la plaine ou en font leur salon à la Belle Étoile. Frankie nous rappelle que nous sommes tous quelque part, la créature de quelqu'un. Et comme on dit à Genève,
on dresse des statues pour les généraux, mais c'est le vagabond qui continue de marcher.
On dresse des statues pour les généraux, mais c'est le vagabond qui continue de marcher.
Radio Bascule.